Lecture nomade en trio. Avec Claudine.
Geneviève.
Et Christiane.
Pour voyager.
Pour rêver.
Pour vagabonder.
S'évader.
Et s'indigner, parfois.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Lecture Nomade, nous allons vous lire trois textes de Frans Bartelt tirés de son recueil « Pleut-il ?», publié aux éditions Gallimard. Et on commence avec l'idée et le destin.
Je crois que ça m'aurait plu d'être violent.
Ah ?
Ça doit être agréable.
Agréable, agréable. Encore faut-il s'entendre sur le sens que vous donnez au mot « agréable ».
Dans le film hier soir, le type, il cognait comme un forgeron. Ah ! J'étais avec lui. Je me sentais en symbiose, emporté. Je me disais, il a de la chance, il a fait le bon choix, il cogne. Je me voyais en train de décoller une tête d'un seul coup de boule. Je me voyais.
C'est bien d'être violent, mais il faut la force. Parce que si on n'a pas la force, c'est plutôt les autres qui risquent d'être violents avec nous. Attention!
Évidemment, la force est indispensable. Si on n'est pas le plus fort, ça ne sert à rien d'être violent.
Je ne suis pas un fou de la violence, moi. Je me suis battue quand j'étais jeune. J'en ai pris, je l'avoue, mais j'en ai donné. Ah oui, j'en ai donné. Enfin, j'en ai pris aussi. Il faut être honnête, j'en ai pris. Quand on se bat, on en donne et on en prend. Mais si je compte bien, j'en ai donné plus que j'en ai pris.
Vous avez le nez cassé.
C'était plus tard. J'ai reçu une planche d'échafaudage sur le nez.
Oula, ça fait mal.
Ah, c'est pire qu'un coup de poing. Le coup de poing, il a figure humaine, vous le voyez venir franchement. Il vient de face. Il attaque le bout du nez. Le bout du nez, c'est mou. Ça amortit le choc. Et vous, en qualité de victime, vous avez tendance à vous dérober à la poussée du poing. Vous reculez de la tête. Vous pouvez même reculer d'un pas. L'impact du coup de poing perd la moitié de son effet destructeur. Alors que la planche d'échafaudage, elle vous tombe du ciel direct sur l'arête du nez. Sans prévenir. Vous ne vous doutez de rien. Pan ! Sur l'arête. Surprise ! Contrairement au bout du nez qui s'écrase, l'arête résiste jusqu'à la cassure. Dans le choc, vous êtes coincé entre le sol et la planche. Il faut que quelqu'un cède. Comme le sol ne peut pas descendre et comme la planche ne peut pas remonter, c'est l'arête du nez qui casse. Et voilà le résultat.
Ce qui est triste, c'est qu'on ne peut même pas en vouloir aux planches d'échafaudage.
Ah si ! Celle-là, je lui en ai voulu. Je sais bien que c'est idiot, mais je lui en ai voulu. La haine.
Je ne vois pas comment on peut haïr une planche.
Avant qu'elle ne m'agresse le nez, je ne savais pas non plus qu'on pouvait haïr une planche. Au contraire, j'étais comme vous. Mais quand on a mal, on devient féroce. Et puis, je me suis vue défigurée, moi. Encore heureux que je me sois mariée l'année d'avant. Après le coup de la planche, j'aurais eu difficile à trouver une femme.
Les femmes n'aiment pas passer après les planches.
Mais je vous jure que la planche a payé, elle a payé. À peine sortie de l'hôpital, j'en ai fait du petit bois. Vous en entendez ? J'en ai fait du petit bois.
C'est toujours une satisfaction d'avoir le dernier mot.
En miettes ! Je l'ai mise en miettes. Je me suis acharnée, j'avais la rage. Je l'ai rouée de coups de pied et je portais des chaussures de sécurité avec des bouts en acier.
C'est terrible.
Ah, je me suis vengée, pas de quartier. Comme on disait à l'armée, pas de prisonniers. Du petit bois, je vous dis.
La violence, ça soulage. Parce qu'on arrive à s'exprimer. Un peu comme dans un poème. Dans le poème, on s'exprime. Dans la violence, on s'exprime aussi. Peut-être même avec plus d'authenticité. On se déborde. Je n'ai jamais connu ça, moi. Ça me manque.
Je ne vous souhaite pas d'entrer en collision avec une planche.
Ah non, c'est pas ça. Ce que je voudrais, voyez-vous, c'est rosser une demi-douzaine de gros costauds, les démonter pièce par pièce, à la main, les finir à la savate, jusqu'à ce qu'ils me demandent pardon.
Si vous voulez qu'ils s'excusent, il ne faut pas trop les démolir non plus. Hein. Il faut leur laisser un filet de voix et une lueur de conscience.
Ça doit être bon, n'empêche. On doit se sentir fier, on a de l'orgueil. J'aurai un petit carnet et je tiendrai une sorte de comptabilité de mes exploits. Tel jour, broyer une mâchoire. Tel jour, casser deux nez. tel jour, arracher une oreille. Je noterai aussi une évaluation du poids de mes proies. 100 kilos, 120 kilos, un quintal et demi. À la fin de l'année, je ferai un récapitulatif. J'écrirai, cette année, j'en ai terrassé pour 30 tonnes.
Vous êtes méchant, vous.
Non. Je voudrais seulement être violent, mais sans méchanceté, pour le plaisir. Et puis, pour l'esthétique, une belle bagarre où on est le plus fort, c'est esthétique. C'est comme un travail d'artiste. Moi, si c'est pour être violent vulgairement, ça ne m'intéresse pas.
Je me demande si vous ne regardez pas trop la télévision.
Vous ne la regardez pas, vous ?
Bien sûr que si.
Bon, si on ne regardait pas la télévision, qu'est-ce qu'on regarderait ?
On n'est pas obligé de ne regarder que les films de violence.
Ça me donne du rêve.
Une comédie sentimentale, ça donne du rêve aussi.
Ça ne cogne pas.
Parfois, si. Avant de s'aimer à la fin, les personnages se déchirent pendant 90 minutes.
Oui, mais ils se déchirent mous. Ils s'expliquent avec des mots. Ils se courent après, ils se téléphonent. Ils n'ont pas intérêt à commettre l'irréparable.
Des fois, c'est violent.
Si c'était violent, il se taperait dessus. Ce que j'aime, moi, c'est quand un type de ma taille et de mon poids met une pâtée à une bande de loubards armés jusqu'aux dents. L'amour, je n'ai rien contre. Vous avez qu'à interroger ma femme, elle vous le dira. Mais l'amour, c'est quoi ? C'est le repos du guerrier. J'ai l'impression que l'amour serait bien meilleur après une bonne bagarre. Vous imaginez ça, vous ? L'homme anéanti, 5 gros lards, 225 kilos... Tous les 5 diplômés de chez Castagne, sous les yeux de sa femme aimée. Peut-être même pour défendre l'honneur de la femme aimée.
C'est une belle situation, en effet.
L'amour serait mérité, non ? Vous l'auriez gagné en mouillant les tatouages. Dans ces conditions, l'amour n'est plus un devoir, c'est une récompense. La femme est pantelante.
C'est vrai, il n'y a que dans les romans que les femmes sont pantelantes.
Et toujours après la bagarre, le héros n'aime que les femmes pantelantes. Alors, il fait ce qu'il faut.
Ça ne risque pas de m'arriver, à moi.
Bon, on est comme bien des hommes. On a l'idée, mais on n'a pas le destin.
Après 3 semaines entières de bonheur qui rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de friser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus. Et je m'en vais à la dérive. Une locomotive avec aux lèvres arrêtées. J'ai fumé de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le traître en petits morceaux, leur coller à la sécotine pour leur découper aussitôt. Mais je les mets en l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines, j'ai brisé de la naphtaline. Et là, Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre loque, essayer d'un autre exutoire. Car le pli sec que j'ai pris le pli, et c'est tant pis quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aille moi. Je prends ma fringue et j'emboue à ma aïe. Alors il me pousse des ailes. Yop, 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 yop.
je me pique à l'eau de Javel. J'ai du chagrin.
Max et les millefeuilles.
La boulangère était jolie. Le gros Max en était amoureux. Mais comment le gros Max aurait-il pu se déclarer ? Le boulanger surveillait la boulangère toute la journée, à croire qu'il ne dormait jamais, puisque la nuit, il boulangeait.
Vers les 8 heures, le gros Max poussait la porte de la boulangerie. Des pigeons dans la gorge, l'œil plus velouté qu'un potage italien, il présentait à la boulangère ses hommages du matin. La boulangère croustillait d'émotion.
C'est ainsi que, vers les 8 heures, elle attendait, non sans impatience, non sans fébrilité, le passage du gros Max. Car la boulangère était amoureuse du gros Max, oui. Mais comment aurait-elle pu se déclarer ? Le boulanger la surveillait toute la journée. La nuit, il boulangeait. Le jour, il surveillait la boulangère. Il ne dormait jamais. La jalousie le tenait debout.
Plus le gros Max passait à la boulangerie, plus la boulangère lui paraissait jolie, plus il en devenait amoureux, et plus il se demandait comment il pourrait déclarer sa femme sans éveiller les soupçons du boulanger. De même, plus le gros Max passait à la boulangerie, plus la boulangère le trouvait sympathique, et plus elle en devenait amoureuse, et plus elle se demandait comment déclarer sa flamme au gros Max sans que le boulanger s'en aperçoive.
Pour se conforter l'un l'autre dans leurs sentiments, ils ne pouvaient qu'échanger des regards discrets. Mettre dans leur « bonjour madame »« bonjour monsieur » une nuance singulière, unique, un peu grave. À cet imperceptible glissement dans le timbre de leur voix, ils comprenaient qu'ils s'aimaient. Et leurs deux cœurs battaient. Et c'était beau. Oh que c'était beau. Quand vers les 8 heures un peu passées, le gros Max quittait la boulangerie en chantant « Au revoir, madame !» et que la boulangère, sur le même ton, répondait « Au revoir, monsieur !» leurs voix, alors confondues sous les néons du magasin, se déchiraient comme deux rideaux brûlés par le soleil. Et c'était beau, c'était très, très beau. Heureusement, le boulanger n'était pas un esthète.
Maintenant que le gros Max savait que la boulangère aimait le gros Max, qui aimait la boulangère, et que la boulangère n'ignorait pas que le gros Max aimait la boulangère, qui aimait le gros Max, et qu'ils savaient tous les deux qu'ils ne pourraient jamais se rencontrer autre part que dans la boulangerie, sous le regard austère du boulanger, un désir puissant les portait à vouloir concrétiser leur occulte certitude par l'échange d'un serment éperdument tangible. Ça aussi, c'est beau. C'est vraiment beau. Oh oui. Ce fut le gros Max qui eut la belle idée.
La boulangère, derrière son comptoir, au bout duquel le boulanger, les bras croisés, montait une garde vigilante, eut bien des difficultés à maîtriser sa joie quand, déposant la monnaie des croissants dans la main tendue du gros Max, elle lut sur la pomme adorée ces mots écrits au feutre rouge. « Je t'aime, mon amour, je t'aime, je t'aime. » C'était plus que ne pouvait en supporter son tendre cœur de boulangère. Elle faillit défaillir et, levant ses pupilles dilatées vers les pupilles dilatées du gros Max, elle murmura de sa voix la moins commerciale. « Les croissants sont du jour. »
Ce qui lui valut dans la tiédeur du fournil d'être fessé par le boulanger qui, à l'instar de bien des boulangers, ne voulait pas qu'on sache qu'une fois sur deux, les croissants sont d'hier.
Le lendemain, tendant la main pour recevoir le prix des croissants, la boulangère, d'une écriture appliquée, avoua au gros Max qu'elle l'aimait.
À son tour, tendant la main pour recevoir la monnaie des croissants, le gros Max demanda au feutre bleu, cette fois, le prénom de la jolie boulangère. Et le lendemain, il apprit qu'elle s'appelait Gertrude.
Cette conversation silencieuse, parfois ponctuée de soupirs, dura et dura et dura, sans que le boulanger jaloux ne puisse jamais en supposer l'adultérine teneur. Et c'était beau. Oh, que c'était beau. C'était beau comme un poème. Les mots les plus fous flambèrent dans leurs mains. Il lui racontait ses rêves, elle lui dessinait des oiseaux, des fleurs, des papillons. Ensemble, ils effeuillaient les plus belles marguerites du vocabulaire. Franchement, c'était beau. Matin après matin, croissant après croissant, billet après monnaie, ils écrivaient à deux mains le plus beau roman d'amour, la plus belle histoire jamais imaginée depuis que les hommes aiment les femmes, que les femmes aiment les hommes et depuis que les boulangers sont jaloux. Doucement, doucement, au fur et à mesure qu'ils se connaissaient mieux, leurs textes matutinaux gagnèrent en sensualité ce qu'ils perdirent de lyrisme. Ce fut
« Comme j'ai envie de toi, Gertrude. »«
Oh mon Max !»«
Ton corps, Gertrude, ton corps chaud près du mien, et mon sexe dans ton sexe, nos chaleurs mélangées et le plaisir qui vient s'accorder dans nos ventres. » »«
Écris plus gros, Max, je n'ai pas pu lire. »
Faire l'amour avec toi, Gertrude.
Oh, prends-moi, prends-moi.
Je me touche en pensant à toi, Gertrude.
Je me touche en pensant à toi, Max.
Et cela dura et dura et dura. Et c'était beau. Ah oui, c'était beau. Mais sans les gestes, les mots d'amour ne sont que des bavardages. Et si le boulanger au bras croisé n'avait pas sa sourcilleuse présence, contrarié leurs élans, ils se seraient jetés l'un sur l'autre, se seraient aimés dans la boulangerie, plus sauvagement que des animaux, parmi les baguettes, le pain de mie, de campagne, de seigle, de son, écrasant sous leurs furieuses ruades baba au rhum et millefeuille, éclairs au chocolat et tartelettes aux framboises, meringues pâtissières et génoises fourrées. C'est beau aussi, ça. C'eût été le tumulte des corps et la délivrance et le bonheur. Mais ce n'était pas.
Et puis un jour, la boulangère présenta au gros Max une pomme sans un mot, dans laquelle il déposa en tremblant l'argent des croissants.
Le lendemain, au feutre bleu, il questionna, il interrogea, il voulut savoir pourquoi la jolie boulangère, femme du boulanger aux bras croisés, n'écrivait plus dans sa main la belle histoire qui les avait fait vibrer à l'unisson. Qu'y a-t-il ? Le boulanger se doute de quelque chose ?
La boulangère ne disait rien. Ses regards étaient toujours langoureux et le son de sa voix quand elle disait « Bonjour monsieur, au revoir monsieur, prenez encore des inflexions nocturnes. »
« Que t'ai-je fait ?» demandait avec angoisse le gros Max. « Ma Gertrude, ai-je mal agi ? N'importe quoi, mais dis-moi quelque chose. »
Le mutisme de la boulangère, cette main qui refusait le dialogue, le gros Max en souffrait, et de plus en plus profondément. Et la boulangère, le voyant souffrir chaque matin un peu plus, se mit à son tour à ressentir des douleurs d'autant plus grandes qu'elle devait rester muette à cause du boulanger jaloux.
Et la jolie boulangère et le gros Max souffraient imperturbablement. Et c'était beau. Oh, que c'était beau! Mais c'était triste. Ah oui, c'était triste. Triste comme la chanson des oiseaux blessés. C'est beau, la chanson des oiseaux blessés, mais c'est triste.
« Tu ne m'aimes plus, Gertrude », écrivit le gros Max un lundi matin. « Je sens que tu ne m'aimes plus », écrivit-il le lendemain. « Comment peux-tu oublier notre amour, Gertrude », écrivit-il le surlendemain. « Je n'en peux plus », écrivit-il le lendemain du surlendemain. « Il faut en finir », écrivit-il le surlendemain du surlendemain. « Je suis très déprimé », écrivit-il le lendemain du surlendemain du surlendemain. « Adieu, Gertrude », écrivit-il le lundi suivant.
Il alla se jeter dans la Meuse. De ses doigts frais, le fleuve lui ferma les yeux, effaça en lui toute trace de vie, gomma dans sa main ses ultimes paroles. Le boulanger, aux bras croisés, ne décroisa pas les bras quand il demanda à sa jolie boulangère de femme. « Ta main, ça va mieux ?»
Elle venait de guérir d'un eczéma causé par une allergie au stylo feutre. Elle contempla sa paume où était écrit à la craie grasse « Max, mon amour, je t'aime ». Et son cœur battait, cependant que le cœur du gros Max ne battait plus. À 100 mètres de la boulangerie, le fleuve, dans sa course froide, emporter l'ombre des mots et des amours si beaux qu'ils en deviennent idiots.
La fin est triste, mais on a beau dire, quand c'est triste, c'est beau. Oh, que c'est beau!
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Le recul.
Vous n'aimez pas? Pourquoi dites-vous cela?
Parce que je vous ai vu reculer.
Je reculais pour mieux voir. C'est un tableau qui demande du recul.
Oui, je le crois aussi. C'est dans le recul qu'on juge vraiment une œuvre d'art.
C'est mon opinion également, et je la manifestais en reculant de quelques pas, comme vous l'avez constaté.
Est-ce que vous me permettez d'aller jusqu'à vous confier que le recul fait partie intégrante de l'œuvre?
Pourquoi fait partie intégrante de l'œuvre? En vérité, à mes yeux, le recul, c'est l'œuvre.
Je n'irai pas jusque-là, non, non.
Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, n'est-ce pas?
Quelles questions?
Le recul fait-il partie de l'œuvre ou l'œuvre fait-elle partie du recul? Est-ce qu'il y a recul parce qu'il y a œuvre ou est-ce qu'il y a œuvre parce qu'il y a recul?
C'est une problématique très délicate. En tant qu'artiste, je pencherai vers la première proposition, à savoir que le recul fait partie de l'œuvre, comme je vous le disais précédemment. Il en est une composante, un élément, une conséquence.
Je n'en suis pas convaincue, du moins... J'en suis convaincue sans en être convaincue, vous me comprenez?
Je vous comprends sans vous comprendre, mais je vous écoute.
Il me semble, vous me direz que je peux me tromper, il me semble que s'il n'est pas impossible que le recul fasse partie de l'œuvre, il est plus que certain, vous m'entendez? Plus que certain que l'œuvre fait partie du recul.
Vous me gênez.
Je m'en voudrais d'être un gêneur.
Vous me gênez sans être un gêneur. Car vous donnez l'impression de subordonner l'œuvre au recul.
Je subordonne en effet.
J'ai l'audace, quant à moi, de croire que ce n'est pas tout à fait le cas.
Écoutez-moi, c'est parce que le jugement de l'homme a d'abord besoin de recul que je m'avance à supposer que le recul précède l'œuvre.
Ce que vous dites là voudrait signifier que l'œuvre, c'est le recul. Est-ce que je comprends bien?
Oui, et non. Ce que je voudrais exprimer, c'est que l'œuvre est dans le recul.
L'œuvre est avant tout dans l'œuvre, voyons. L'œuvre est dans l'œuvre. Si l'œuvre n'était pas dans l'œuvre, il n'y aurait pas d'œuvre. L'œuvre est dans l'œuvre.
L'œuvre est dans l'œuvre, bien sûr, parce que l'œuvre étant le recul étant l'œuvre n'est dans l'œuvre que dans la mesure où l'œuvre est dans le recul.
Le recul n'est pas une œuvre, non, le recul n'est pas une œuvre.
Il y a des œuvres qui n'impliquent pas le recul. On est devant. On les regarde, on les voit, On ne les voit pas, on dit « bon » et on passe à la suite. Ces œuvres, que je ne critique pas, sont des œuvres qui ne sont que des œuvres. Alors que ce tableau, par exemple, dont vous êtes l'auteur...
Il s'intitule « Psychomotorisation à quatre temps, premier temps ». Pardonnez-moi de le préciser.
Que ce tableau dont vous êtes l'auteur et qui s'intitule « Psychomotorisation à quatre temps, premier temps » est une œuvre plus un recul. Vous comprenez ? Votre œuvre n'est pas une œuvre au sens mesquin, au sens marchand, au sens réducteur du terme. C'est une œuvre augmentée du recul qu'elle inspire, qu'elle engendre, qu'elle impose à celui qui l'examine. Je veux dire qu'elle n'est visible qu'avec le recul. Privez-la du recul et l'œuvre disparaît. Elle devient opaque, elle se dissout dans les limbes, on ne la voit plus, alors que le recul l'a fait exister. Le recul, mais c'est toute l'œuvre, le recul.
J'ai l'impression de pressentir ce que vous voulez signifier, mais ce n'est qu'une impression.
N'avez-vous pas vous-même dit que le recul fait partie de l'œuvre ?
Je l'ai dit.
Et que fait-on lorsqu'on se trouve devant cette œuvre ? On fait ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ?
Vous avez pris du recul.
Voilà, j'ai pris du recul.
Je m'en suis aperçue. Raison pour laquelle je vous ai adressé la parole.
Et ce recul que j'ai pris, je l'ai pris quelque part. Quand on prend du recul, on le prend quelque part, oui ou non ?
Oui.
Et où le prend-on ?
Oh, c'est une question que je ne me suis jamais posée.
On le prend où on le trouve ? On le trouve où il est ? Il est où l'artiste l'a mis ? Et il est où, le recul ?
Il est où ?
Il est dans l'œuvre. S'il n'y avait pas de recul dans votre œuvre, comment aurais-je fait pour prendre du recul ? Car je l'ai pris ce recul. Vous l'avez constaté de vous-même, je n'invente rien.
En effet.
Pas de recul, pas d'œuvre. Du recul, une œuvre. Le recul précède l'œuvre. L'œuvre est subordonnée au recul.
Je suis ébahi.
L'œuvre est la mère du recul, mais le recul est le père de l'œuvre.
Vous établissez là une filiation à laquelle je n'ai jamais songé.
Votre œuvre est riche en recul. L'essence même de votre œuvre, c'est le recul. Vous êtes un artiste du recul.
C'est probable.
Votre œuvre cristallise les forces créatrices du recul. Face à cette toile, on se sent inondé par le recul. On baigne dans la lumière du recul. On devient soi-même le recul. Physiquement, on recule. Je recule. Vous avez vu comme j'ai reculé ?
Ah, je suis témoin.
Ce qu'on voit d'abord dans votre œuvre, c'est la nécessité du recul. Votre œuvre n'est que le signe que nous adresse le recul.
Je veux bien le croire.
Prendre du recul pour voir.
Je savais que le recul était important, mais je ne me rendais pas compte qu'il était autant.
Pour se rendre compte, il faut prendre du recul.
Laissez-moi en prendre un peu sur ce que nous venons de dire.
Prenons-en ensemble. Ces textes sont tirés du recueil de Franz Bartelt, Pleut-il, édité aux éditions Gallimard. Ce livre est disponible à la bibliothèque de Saint-Affrique.
Lecture nomade en trio.
Avec Claudine.
Geneviève.
Et Christiane.
Pour voyager.
Pour rêver.
Pour vagabonder.
S'évader.
Et s'indigner, parfois.